Bonjour à tous. Comme une chanson populaire, elle analyse la fabrique des tubes et signe un manifeste pro-pop avec une dialectique qui lui est propre. La philosophe Agnès Guéraud est notre invitée à partir de 12h55. Et question de rentrée, nous ne manquons pas de la lui poser. Où est passé le tube de l'été? En espérant qu'elle nous réponde dans la deuxième partie donc de la grande table des idées. Mais d'abord, kitsch mais pas has-been, portrait d'une idole d'hier avec un comédien réalisateur d'aujourd'hui, Alex Lutz. Son film Guy sort en salle aujourd'hui, à écouter en direct tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
Grande table. Olivia Gesbert.
Ouverture ce soir de la 75e Mostra de Venise, grande messe du cinéma mondial avec First Man de Damien Chazelle, 2 ans après avoir fait sensation en ouverture du festival avec la comédie musicale La La Land. Les Français sont bien représentés, Double Vie d'Olivier Assayas, Jacques Audiard avec son western Les Frères Sisters. Un an après avoir obtenu un Lion d'Or pour La Forme de l'eau, on retrouvera aussi là-bas à Venise, Guillermo del Toro qui va présider cette fois le jury aux côtés notamment de Nicole Garcia, de Naomi Watts ou de Christoph Waltz. Et pour représenter France Culture, notre critique à nous, Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
Alors, sous quel soleil s'ouvre cette Mostra, Michel?
C'est un programme extrêmement brillant, évidemment. La Mostra bénéficie d'une date très favorable, puisque les Américains se sont maintenant habitués, pas seulement parce qu'ils ont remporté plusieurs Lions d'Or, et souvent des films en ouverture, mais aussi parce que les Oscars, la course aux Oscars commence à Venise, suivie par Toronto et Telluride au Colorado. Ce sont des droits rendez-vous, et Venise a la primeur. Alors, c'est évidemment un programme assez stupéfiant, parce qu'on trouve beaucoup de grands noms du cinéma mondial. Ce qu'il faut dire d'abord aussi, c'est que Alberto Barbera, le directeur qui est responsable de cette renaissance, on peut dire, de Venise, qui sombrait dans les années précédentes, Barbera a cassé, disons, le boycott de Netflix en prenant des films Netflix. Il y a un film de Paul Greengrass, le grand cinéaste semi-documentaire anglais. Il y a le film des frères Cohen et aussi Alfonso Cuarón, le Mexicain, mexicano-américain, qui sont en compétition. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer si un Lion d'Or va à un film Netflix qui ne sortira jamais sur grand écran. C'est-à-dire, on aura un Lion d'Or qu'on verrait sur un téléphone portable ou sur un petit écran. Voilà, ça, c'est un vrai problème, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, vous avez raison de dire que la France est bien représentée, mais j'ai vu évidemment le film ce matin de Damien Chazelle, qui fait l'ouverture ce soir, la présentation à la presse. C'est un très bon film au sens que c'est quelqu'un qui connaît admirablement son métier, comme pour La La Land, c'est-à-dire qu'il ne rivalise pas avec des grands films de science-fiction. Il s'agit de l'opération de Armstrong et de la NASA dans les années 60, toute la préparation du vol sur la Lune, mis en parallèle avec la vie familiale de Armstrong, des problèmes avec sa femme, avec ses enfants, les risques que ça représente, les échecs qu'ils accumulent, que la NASA accumule avant de triompher de tous les obstacles. Donc c'est un film de bonne facture, d'un très bon, j'ose pas dire faiseur, parce que c'est quelqu'un de talent, mais c'est ironique de penser que le film de Kubrick, 2001, il y a exactement 50 ans, avait été accueilli par beaucoup de sifflets et de très mauvaises critiques, par les plus grands noms de la critique mondiale, et qu'aujourd'hui le film de Cuarón le film de Chazelle est accueilli unanimement à la presse. Il y avait que des applaudissements. Voilà, mais c'est le propre des films consensuels. C'est un feel-good movie qui va remplir son rôle et qui remplira les salles.
Bon, sur cette question de la polémique Netflix, on l'a déjà connue à Cannes au dernier festival. Il va falloir la régler, cette question, à un moment ou à un autre, hein, peut-être. Non, vous pensez pas, Michel Simon? Qu'est-ce qui se dit là-bas?
C'est pas sur moi pour régler ce problème. Ben non, moi, je comprends que les exploitants se soient ligués, mais les exploitants français sont plus forts, plus organisés, parce que le cinéma en France est beaucoup plus vivant dans les salles. Et Thierry Frémaux a été évidemment poussé à refuser les filles Netflix en compétition. Voilà, tandis que Barbera, il a décidé de faire ce choix. On verra ce que ça donnera. À mon avis, c'est surtout un Lion d'Or qui serait catastrophique. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'à Cannes l'année dernière, Almodovar avait dit « Je ne donnerai jamais une Palme d'Or à un film qui ne sortira jamais dans les salles et sur grand écran, qui ne pourrait pas être vu dans les conditions d'un film normal. »
Voilà, la Mostra de Venise, un festival important, antichambre presque des Oscars, vous le disiez, qui est festival qui périclitait un peu à un moment et qui aujourd'hui a vraiment repris des couleurs. Merci beaucoup Michel, on vous retrouvera à intervalles réguliers dans cette grande table de la culture pour ces éclats de Mostra, écho d'un festival qui va rythmer l'agenda ciné de l'année. Merci beaucoup Michel Simon.
Certains chanteurs font partie de nous.
Bonjour. Bonjour.
Moi, quand j'entends Guy Jamais, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jamais était mon père.
C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous.
C'est une fan.
Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup.
Papa. Hé, papa.
Vous vous sentez un peu dépassé des fois ou pas ?
Dépassé ?
Ouais.
Non.
Je crois pas que tu deviens artiste. Je crois que c'est un état d'âme. Moi, je sais pas si j'ai du talent, mais je sais que je suis un artiste. En tout cas, l'esprit, l'état d'âme, c'est sûr. C'est une colère.
Te souviens-tu de notre première fois ?
Vous avez des enfants ?
Oui, j'ai un fils que j'ai eu avec Anne-Marie.
Vous avez qu'un fils, quoi ?
Oui, j'ai qu'un fils, c'est déjà pas mal, non ?
Ouais, c'est pas mal.
Enchanté. Guy Jamais.
D'annonce de Guy en salle aujourd'hui. Guy signé Alex Lutz, bonjour.
Bonjour.
On évoquait La La Land de Damien Chazelle à l'instant autour de la Mostra de Venise. Guy, ça aurait pu être une comédie musicale, un film enchanté, comme disait Demi.
En tout cas, il y a de ça dans le film, puisqu'il y a la. On a créé un personnage qui serait une vedette populaire qui a fait les beaux jours de l'industrie du disque entre les années 60 et 90 et on a inventé son répertoire. Il y a des moments de live de ces rendez-vous en gala, comme on dit, dans le film. Donc oui. Après, une filiation de Guy sur scène dans quelque chose qui serait du spectacle, ça serait possible aussi. Mais je ne le vois que comme ça. Sinon, Guy doit être Guy dans l'objet qu'il est. Qui emprunte au faux documentaire pour raconter une histoire.
Et si Guy avait pu ou dû chanter sa vie dans une chanson, vous lui auriez donné quel titre
Si
à
Guy
ce
avait
titre
pu
chanter sa vie dans une chanson.
Dans une de ses chansons ?
Ouais.
Oh, dans une de ses chansons, ça serait...
Elle s'appellerait comment cette chanson ?
Sans un regard, je crois. Sans un regard, parce que c'est une chanson où il dit un peu kitschement. Son lien avec les chevaux et sa soif de liberté. Alors c'est quelque chose qui lui ressemble dans son répertoire. C'est une bonne phase B, hein, c'est pas ce qui a fait le plus grand tube.
On évoquait la forme du film, cette fiction qui prend d'ailleurs la forme d'un documentaire, un film prétexte pour faire connaissance, dont Guy, le fils caché de cette vieille gloire des 60s, part à la rencontre de son père, qui a fait sa vie, lui, sous le feu des projecteurs, ombre, lumière. Il lui propose de faire son portrait. Quelle liberté cette forme-là vous a-t-elle offerte à vous, Alex Lutz ?
Étonnamment, sur l'envie de faire un deuxième film, c'est cette forme qui est apparue première dans les idées, dans l'alignement des planètes pour faire un film. C'est pas l'histoire qui est venue en premier, ni le thème, c'était vraiment le cadre, et un cadre qui me permette de la liberté, du chaos, du risque, de l'explosion de structure, de temps, enfin exploser le temps risque, quoi, de pouvoir passer d'une époque à l'autre et tout ça assez facilement. Alors je cherchais longtemps et puis tout à coup je me suis dit mais c'est vrai qu'un beau documentaire de cinéma, ça nous raconte une histoire. On en a vu des tellement beaux ces dernières années qui commencent à rentrer dans les salles. J'ai été ému dans certains, j'ai ri dans certains. C'est possible d'y raconter une histoire. Donc j'ai choisi ce cadre-là, de reconstituer un faux documentaire, enfin de reconstituer un documentaire, en tout cas il faut que ça ait l'air d'un vrai documentaire, et à l'intérieur de ça, effectivement, l'histoire de ce fils illégitime, ce journaliste qui trouve ce moyen très original d'aller à la rencontre de son père, qui il se trouve être une vedette populaire, voilà.
Est-ce que vous l'avez du coup travaillé, préparé ce film comme un vrai documentaire ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes documenté énormément ? Est-ce que vous êtes allé, vous, avec votre petite caméra au sang, à la rencontre aussi de ceux qui ont fait les années 60 ?
Non, plutôt dans la fabrication. Dans la fabrication, je me suis inspiré, j'ai dû faire deux séquenciers. J'ai dû faire un séquencier de Gauthier, documentariste, donc son intention de séquencier, comme s'il allait à
Alors,
la
Gauthier,
rencontre.
Alors Gauthier, c'est le fils donc, voilà, qui va à la rencontre de son père. Qui ne sait pas qu'il est son père.
Qui ne sait pas. Ouais. En fait, Gauthier a su au décès de sa mère, a su un peu par hasard qu'il était le fils de Guy Jamais. Et il n'en est même pas complètement sûr, c'était sur un bout de papier dans ses affaires. Et il comprend que ça doit à peu près rester secret, cette histoire-là. Parce qu'il a une structure familiale qui fonctionne très bien. Il y a un coup de canif, elle a eu une aventure avec ce Guy Jamais au détour d'un concert. Bon. Mais lui, il est journaliste, il a le droit d'aller le rencontrer. Voilà, il s'arroge ce droit-là. Et donc, pour construire le film, par respect de vraisemblance, quoi. J'ai d'abord fait son séquencier à lui, comme un séquencier que ferait un documentariste pour aller à la rencontre d'un sujet. Donc, qu'est-ce qu'il voulait voir, les répétitions, la vie privée, etc. Et puis après, j'ai fait un séquencier de ce à quoi devait ressembler le film définitif, évidemment, où là, on est plus proche d'un scénario classique, quoi. Toute l'intégralité de l'histoire et des enjeux qu'on rencontre au fur et à mesure dans le film.
Alors, puisque dans ce studio, c'est moi la journaliste, a priori, est-ce que je peux moi aussi m'arroger le droit d'aller voir Guy et lui poser deux, trois questions?
Allez-y.
On peut tenter. Parce qu'il y a quand même des choses auxquelles il ne répond pas dans votre film. À un moment, il dit « j'ai vieilli, mais j'ai pas changé, on ne change pas, on prend des coups ». On a quand même envie de lui demander pourquoi il continue à chanter des années après, les années, l'âge d'or de ce chanteur, Guy Jamais. Pourquoi, Guy Jamais, vous faites tout ça, vous ? Qu'est-ce que vous cherchez à vous prouver encore aujourd'hui ?
Alors, je dois vous répondre comment ?
Vous êtes Guy.
Alors, je suis Guy. Je dois vous répondre comme Guy ? Oh non, j'y arriverai pas. Ah non, j'y arriverai pas. Je suis un acteur, hein, je peux pas. Il est dans le film, Guy. Mais alors, je peux répondre pour lui parce que je le sais.
Alors ?
non, mais c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est impossible pour bizarrement, et c'est toute la douleur d'un artiste, c'est le renoncement est assez impossible. C'est son essence, c'est son éducation presque, la scène. Surtout pour un produit de l'industrie du disque. On oublie souvent que c'est des gens qui ont grandi avec leur propre répertoire. Ils avaient 20 ans, peut-être, 19 pour certains. Vous prenez France Gall, c'est encore plus jeune. Leur image, la personne qu'ils sont et ce qu'ils sont profondément, voilà, c'est constitué de cette carrière. C'est pour ça quand Gauthier lui dit « vous montrez votre caricature, la caricature de vous-même » et que Guy se cabre un peu en disant « bon, ça suffit maintenant, je suis peut-être cette personne que tu vois, je suis complexe, mais je suis aussi cette personne-là », c'est vrai. C'est-à-dire que il est aussi ce chanteur à l'eau de rose, ça le constitue complètement aussi. Et donc, oui, il continue jusqu'au bout, malgré les aléas.
En fait, le Jamais, son patronyme, c'est ça, Guy Jamais, c'est le Jamais de ne jamais renoncer.
Finalement. De ne jamais renoncer, et puis aussi la petite blague, n'avoir jamais existé, hein, puisque rappelons-le, c'est un personnage de fiction.
Alors, j'ai peut-être pas dit quand même, parce que le béaba, pardon, je fais mal mon boulot aujourd'hui, dans le film que vous avez réalisé, Alex Lutz, vous êtes Guy Jamais, avec une métamorphose.
Ah oui, on l'a pas dit.
Non, mais c'est de ma faute. Une métamorphose extrêmement réussie dont on va reparler, c'est-à-dire d'abord on va vous écouter vous engueuler avec votre fils.
Je vois ce que tu filmes, je suis pas stupide.
Quoi, je filme quoi ?
Mais prends pas ce ton, débile. Je vois, c'est tout, je vois. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire, hein ? À ton âge. Tu filmes ma Sophie, tu la trouves conne ?
Non.
Si, tu la trouves conne, bien sûr que si, tu la trouves conne, mais moi, elle-même, moi.
Vous êtes d'accord pour un portrait sans phare ? Vous me montrez une espèce de caricature de vous, là ?
Mais de quoi ? De pourquoi ? De caricature ? Quelle caricature ?
Vous dites des aberrations, c'est des poncifs hallucinants de oui, tout à fait.
Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, c'est Drucker, à la fin ?
Je vais faire quoi? Je vais faire voter une loi à l'Assemblée nationale chez Drucker, moi, Guy Jamais? Avec mes chansons qui s'appellent Passionnément, Tendresse, Caresse, Un slow avec la lune? Je vais dire quoi, Michel Drucker? Bah finalement, je me suis trompé, j'aime pas l'amour. Je suis triste, en fait. Je suis déprimé. Erratum, pardon, n'achetez pas mes disques. C'est ça que tu veux que je dise chez Drucker? Michel Drucker? Si ça venait à me suffire, cette vie-là, qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Caricature, comme tu dis. C'est peut-être ce que je suis.
Il y a des silences dans lesquels on peut mettre beaucoup de choses, et notamment ces zones d'ombre qu'il ne veut pas révéler et qui, malgré tout, apparaissent à beaucoup d'instants du film. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sourit un peu de ces vieilles gloires, et c'est toute la finesse peut-être de votre film, Alex Lutz, c'est de nous rappeler que bah, y a pas vraiment de raison de les juger. Et lui dit « ne me prends pas pour un con ».
Non, c'est insupportable. Non, mais après, on rit, c'est... Alors, je devrais pas dire ça. Moi, je continue à faire plein d'humour. Il y a plein d'humour dans le film et je fais des spectacles où l'on rit beaucoup. Bon, mais on rit pas que de ces vieilles gloires. On est dans, il y a quelques maladies de nos sociétés. Enfin, il y a quelques éléments qui sont des symptômes, en tout cas. Le rire est devenu un symptôme. Je sais pas ce qu'on comble, mais on est devenu fou avec ça. Il faut rire énormément. Ça me fait penser à ce peintre asiatique avec ses grands sourires. Là, je sais même plus son nom. Ça me glace un peu, oui. Je trouve ça très violent, en fait.
Est-ce que vous avez voulu provoquer, c'est justement du rire, parfois, un rire tendre, mais pas un ricanement.
Un rire avec, quoi. Moi, je serais capable, avec vous, et c'est pas très compliqué, ça prend une fraction de seconde, d'aller à l'autre et de rire. Je serais capable, avec vous, de rire de vous, dans ce cadre, à France Inter, de cette émission,
à France Culture. Là, vraiment, c'est moi qui vais rire.
Ben voilà, vous voyez un peu, de cette émission à France Culture, de ces ingrédients, vous pourriez rire de moi. Voilà, ça n'est pas compliqué de rire ensemble et de l'un et de l'autre. Le positionnement qui a l'air de... le positionnement où on se chapellise les uns les autres en voulant quand même montrer qu'on a un peu mieux pigé les choses, je trouve que c'est très très présent et très violent, je trouve, ouais.
Et ces artistes comme Guy Jamais que vous filmez, ils ont gardé leur public. Vous montrez pas des tournées minables avec des salles à moitié vides dans des fêtes de village. Il se fait assez discret. C'est plus un chanteur à la mode, mais il chante quand même à guichet fermé votre film.
Oui, tout à fait. Il a un public présent, fidèle. C'est aussi la magie au bout d'un moment de plein d'artistes qui peuvent être plus ou moins en fait dans l'œilleton médiatique, c'est-à-dire souvent à coup de promo pour des rendez-vous promotionnels, mais quoi qu'ils fassent, en quelques affiches et quelques effets d'annonce, la salle se remplit parce qu'ils ont un public puissant et fidèle. Moi, je me souviens très bien de comment Nicoletta, à un moment donné, est revenue très fort dans les médias. Mais elle n'avait pas disparu, elle avait eu justement l'intelligence elle avait, je crois, créé sa propre boîte de prod, elle produisait elle-même des spectacles dans les églises, parce qu'elle voulait mettre en avant la voix, et comment, puisqu'on sait quand même que c'est une très grande voix, et elle avait revisité tout son répertoire, aussi fruit de l'industrie du disque, mais plus sur des versions de plug, des vocales et je crois gospel. Et elle avait fait toute une tournée très 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 importante qui avait réuni un public dingue et qui n'était pas très suivi médiatiquement. Et d'ailleurs, elle l'avait fait et après c'était suivi. Enfin, ça s'était inversé.
Mais donc disparaître, sortir de la lumière pour tous ces artistes, c'est quand même une petite mort et... Peut-être vous l'illustrez d'ailleurs à travers une fausse vraie chronique de Nicole Ferroni, parce que Guy fait la tournée des médias, de certaines émissions, Drucker, Europe 1, j'ai oublié le troisième.
Virgin, je crois.
Voilà. Bon, alors en tout cas, dans cette chronique de l'humoriste d'aujourd'hui, Nicole Ferroni, rebaptisée dans le film, c'est vrai que la moitié des noms qu'on connaissait à l'époque, on pense que ces artistes sont morts aujourd'hui, alors qu'ils sont encore bien vivants. Ils sont juste sortis de la lumière. Et on comprend aussi ce que peut être l'angoisse pour eux de vieillir. C'est aussi un film sur le temps qui passe,
bien sûr.
Pour eux comme pour nous.
Oui, oui, sur disparaître à l'œuvre, quoi. Et puis dans un moment où l'image, parce que cette caméra subjective, elle ne dit pas que cette histoire-là, elle dit aussi un temps où l'image vraisemblablement est devenue suprême. Mm. Puisque vous dites disparaître de la lumière, par exemple, quitter un peu la lumière, et en même temps des salles combles. Ces salles combles, c'est pas de la lumière. Et puis une salle remplie à 800 personnes qui applaudissent, c'est déjà être très en lumière. Il y a des siècles, c'était des énormes succès. L'image est venue après. L'image et l'importance de l'image, du son et des médias. Alors c'est devenu hiérarchiquement plus important. Donc il doit effectivement faire avec ça. Il est un homme du siècle dernier et du siècle à présent, quoi.
L'importance de l'image, vous le racontez aussi. Guy montre les pochettes de ses albums, ses propres métamorphoses pour répondre au mode du moment qui tenait à une mèche de cheveux, à une couleur, à une attitude plus ou moins douce ou inspirée. C'est aussi comme ça, on fabriquait des idoles. Ce que raconte bien un livre de photos paru il y a 2 ans, je crois, de Gérard Bousquet. On voit ces visages de Dave à Johnny Hallyday, des figures qui sont presque devenues iconiques. Alors, est-ce qu'ils étaient vraiment des artistes? Est-ce qu'ils étaient aussi fabriqués par l'époque et par des grands manitous de la chanson française, comme Eddie Barclay, que je vous propose d'écouter en 69?
Eddie Barclay, quels sont vos poulains préférés?
Tous. Franchement, tous.
C'est de la gentillesse?
C'est pas de la gentillesse. J'ai une grande faiblesse pour les auteurs-compositeurs parce que ce sont des gens qui entiers, n'est-ce pas? Quand il s'agit d'un interprète, on peut faire ce qui s'appelle des coups, c'est-à-dire avec une très grande chanson ou une très bonne chanson, on peut non pas inventer des artistes, parce qu'on n'invente jamais des artistes totalement. On peut leur donner un bon arrangeur, on peut leur donner un bon studio d'enregistrement, on peut leur faire une bonne publicité, leur faire une bonne affiche, une bonne pochette, etc., etc. On peut les placer dans un contexte, on peut les mettre dans des circonstances de vie particulières pour que ça arrive. Bon, tout cela, c'est un peu notre métier. Mais eux-mêmes doivent avoir encore un comportement particulier et surtout avoir une bonne voix qui correspond à la demande temporaire du public, puisque vous savez très bien que le public change de mode. C'est lui-même qui change de mode. On dit qu'on invente des modes, mais on les invente avec l'accord du public, vous savez.
Voilà, ils sont le produit d'une mode et ils sont aujourd'hui passés de mode.
C'est toute la question, tout le temps. Moi, je suis un artiste, donc je vais évidemment pas être d'accord, mais c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Je sais pas cette histoire de demande. Si, bien sûr que si. D'ailleurs, il y a un petit aveu. On ne les fabrique pas totalement. Bien sûr qu'il y a une fabrication. En tout cas, pour l'industrie du disque, il serait gonflé de dire qu'ils n'ont pas participé énormément à les fabriquer. Mais voilà, ça correspondait effectivement à quelque chose qui était au-delà du raz-de-marée, au-delà de la petite chansonnette. On ne se rend pas bien compte. Tout d'un coup, de la chanson se consommer, s'acheter. Le format, ça revient à dire à un moment donné qu'une poésie mis sur un format, récité ou chanté, s'achète comme un produit. Donc c'était très particulier, je crois qu'on ne se rend pas bien compte. Maintenant, ça nous paraît, mais c'était très très puissant. Et donc évidemment, il y avait toute la mythologie autour de cet objet vendu. Mais ce que je vous disais, c'est pour ça c'est intéressant aussi ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il y a un artiste en dessous et il y a une personne en dessous et c'était fait à partir de cette personnalité. Et au bout d'un moment, ça devenait leur personne, leur éducation, c'est-à-dire leur carrière et leur manière de...
Est-ce que 2010, vous diriez, décennie nostalgique? Parce que on parle de mode, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi en ce moment un retour de mode à l'écran avec votre film? Il y en a eu d'autres avant, quand j'étais chanteur, celui de Giannoli avec Depardieu, aux deux personnes avec Alain Chabat. On peut parler aussi de cette tournée, Âge tendre et tête de bois, tournée Gala des idoles, qui est produite par De Chavannes aujourd'hui, qui est le nom est emprunté à une émission de télé de ces années-là. Et depuis plus de 10 ans, on retrouve sur scène Michel Thor, Annie Cordy, Sheila, Dave, Hugo Frey, Hervé Villard, les stars d'hier, et là encore, à guichet fermé. Comment vous l'expliquez?
De rechercher à se rassurer dans le passé, dans les images du passé, des images qui ne sont pas que des souvenirs, parce qu'elles sont regardables et consultables, ce qui n'était pas le cas au siècle précédent, avec nos souvenirs ou nos mots, quelques photos, mais enfin, c'était là, le poids de l'image et le poids du format enregistré, pressé, montrer, diffuser, créer des madeleines de Proust aussi accessibles que des produits, et donc on peut se lover dans nos souvenirs, se rassurer avec et se rassurer d'une époque au moins qu'on connaît, vu qu'on connaît pas l'avenir, qu'il est toujours incertain, qui fait toujours peur. C'est le drame de toutes les époques. Je pense que les époques précédentes, si elles avaient eu ces formats de consultation comme une médiathèque de souvenirs, auraient sans doute eu le même genre de mouvement.
Et c'est Guy qui dit, dans le film, on a tous quelque chose dans le cœur, un truc qui serait une madeleine de Proust. Alors, je ne vais pas vous demander votre madeleine, ce serait trop simple, mais on va quand même tester un tout petit peu votre culture musicale à vous, voir si vous connaissez vos classiques. Prêt ?
Allons-y. Oh merde.
Là, vous devez la reconnaître dès les premières notes.
Bah oui, normalement. Attendez, je vais laisser avancer un petit peu.
Nous n'irons plus jamais.
Oh putain.
Où tu m'as dit, je t'aime.
Le micro est resté ouvert, vous dites pas de gros mots.
On ne dit pas de gros mots.
Non.
Bah non, si vous allez être arrêté par la police. Villard, non ?
Oui.
Villard,
ouais. Bon. Et le titre, non ?
Bah, ce serait Capri. Non.
Voilà, Capri, c'est fini. Allez, on essaye autre chose.
Laissez-moi deux minutes. Enfin, c'est très long.
Elle était si jolie.
Bon, ça, c'est le titre de la chanson. Hein.
Que je n'osais l'aimer.
Je pourrais pas vous dire.
Elle était si jolie.
Anthony ? Non.
Non, vous séchez vraiment.
Oui, je sèche vraiment.
Bon. Bah, vous avez l'âge de vos os. Alain Barrière.
Alain Barrière, j'aurais pas pu vous dire. Mais... Vous avez fait un truc hyper pointu. Ah, mais c'est pas possible.
On a pris le plus grand tube.
Je suis une quiche.
Je ne veux plus être celui.
Incapable de vous dire.
Qui ne connaît que des.
Frédéric François.
Ça, c'est Frédéric François. Ah ouais. Vous mettez les refrains, vous mettez les strophes.
Mais c'est ça, c'est Laisse-moi vivre ma vie.
Bah oui, mais c'est ça, c'est le refrain, ça.
On tente une.
Oh oui, tentez, je le prends très mal.
Ça va travailler un peu la culture cinématographique aussi.
Mélodie de mots chante le cœur d'Emmanuel.
Bachelet.
Bachelet, bravo, bravo. Bravo, premier. Ouais.
Non, pas premier, complètement.
Mais c'est le premier vraiment réussi.
Non, Villard, j'ai eu du temps parce que j'avais besoin d'être du refrain.
Allez, un dernier pour la route.
Ah bah oui, bah voilà, je viens de vous en parler. Nicoletta.
Voilà.
Bon. C'est très gentil de la part de la régie d'avoir mis subtilement Nicoletta parce
dernier,
que je viens d'en parler.
Exactement. S'ils étaient sûrs que vous connaîtriez.
Non, mais alors Alain Barrière, merci, par contre, garçons. Je suis dans un. Ouais, impossible. Parce que je l'associe pas suffisamment à des chansons.
Alex Lutz, vous restez avec nous parce qu'on va ouvrir cette discussion sur la chanson populaire dans la deuxième partie.
Entendu.
Aussi de l'émission avec notre invité Agnès Guéroux qui va nous parler de la, moins de la fabrique d'ailleurs de ces tubes que une sorte de philosophie de la pop aujourd'hui. On reparlera de votre titre à vous, celui qui fait danser ou en tout cas presque pleurer dans Guy, votre film Dadidou, inspiré d'un Scopitone, Pétula Clark, Claude François, et qui est une très bonne chanson.